Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la ville de Manosque et l'État signent des contrats publics, sécurité et politique de la ville par exemple. Interview de la préfète Violaine Desmarais et de la sous-préfète Nathalie William dans ce magazine. Un marché et des animations jusqu'au 22 décembre, Sisteron fête la magie de Noël. Le reportage de Chris Alessandri dans un instant. Roland Gomez, fondateur de l'entreprise d'intérim Proman, a reçu la médaille d'or de la ville de Manosque, une distinction qui salue une réussite économique où le social n'est pas absent. Nous écouterons son interview pour Force 7. Correspondante de presse à Gréoux-les-Bains, Marie-Noëlle Pascal publie Le secret de Camille C, entretien dans ce magazine d'une écrivaine qui marie art et polar. Des contrats publics à Manosque.
L'État contractualise des projets avec les collectivités territoriales, donnant des moyens à des actions et objectifs précis. Comme dans de nombreuses communes, Manosque a des contrats publics et la semaine dernière, la cité de Girno a signé deux documents importants, le contrat de ville pour ce qui est de la cohésion sociale et le contrat de sécurité intégrée. Nous revenons sur ces deux documents avec les représentantes de l'État. Et d'abord, la préfète Violaine Desmarais, qui avec le parquet de Digne et l'éducation nationale engage une coproduction pour la sécurité avec la ville de Manosque. La ville concentre l'activité et la richesse du département. Elle concentre également en conséquence la plus grande partie de sa délinquance, stipule en préambule le contrat de sécurité intégrée. Des actions d'animation et de prévention sont engagées avec des associations spécialisées, notamment sur les quartiers ciblés, mais aussi un large volet répressif mené conjointement par les signataires à l'image des coopérations entre les polices nationales et municipales. Images de vidéosurveillance partagées ou patrouilles communes, par exemple. Côté effectifs et moyens, 23 policiers municipaux plus 5 agents de sécurité voie publique et 68 caméras, dont 28 pour les seuls parkings. Au commissariat, 3 officiers et 65 personnels, dont 9 officiers de police judiciaire, avec également l'appui possible des officiers et agents de la direction départementale de la sécurité. Des groupes de partenariat opérationnels où le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance favorise une vision et des actions communes. Je vous propose d'écouter la préfète des Alpes de Haute-Provence à l'issue de la signature du contrat de sécurité intégré. Elle annonce l'arrivée imminente de 5 agents supplémentaires au commissariat de Manosque. Violaine Desmarais, vous êtes préfète des Alpes de Haute-Provence. Quel est l'intérêt de ce contrat de sécurité intégré ?
L'intérêt, c'est de mieux faire ensemble, en décidant ensemble, en concevant ensemble et en préparant ensemble. Et donc ce contrat de sécurité intégré que l'État a signé aujourd'hui avec le maire de Manosque, c'est le fruit d'un travail qui a duré pendant quelques semaines pour pouvoir justement concevoir, construire et décider ensemble. C'est une méthode assez différente que l'État, dans plein de domaines, souhaite développer depuis quelques années, cette politique contractuelle, cette république contractuelle que le chef de l'État a appelée de ses voeux. Et donc l'État peut évidemment demander des choses au maire en matière de sécurité, mais le gouvernement considère que c'est mieux d'en discuter ensemble avant. Et on arrive aujourd'hui, vous le voyez dans ce document, dans cette présentation, à des engagements assez historiques de l'État et de la ville de Manosque, avec plus de vidéoprotection, avec plus de fonctionnaires et de policiers municipaux, et plus de policiers nationaux. Et donc on voit comment on peut agir sur l'ensemble par ailleurs des leviers, parce qu'un contrat, ça nous oblige à nous poser, à regarder tout le champ des sécurités pour mieux agir et de façon plus complète et globale.
C'est l'intérêt général qui prévaut.
Toujours, c'est toujours l'intérêt général qui prévaut. Les maires ont des choix politiques à faire, ils font leurs choix politiques. Le gouvernement a ses politiques publiques évidemment fortes En matière de sécurité, on est au cœur de nos compétences régaliennes. Et donc, on se dit qu'il faut qu'on échange, qu'on discute pour co-construire. C'est la fameuse coproduction de sécurité. Les maires et l'État ont des compétences un peu différentes en matière de sécurité. Elles sont complémentaires. Donc, on agit ensemble, main dans la main.
Avec l'annonce que vous avez faite tout à l'heure de 5 fonctionnaires supplémentaires ici au commissariat de Manosque.
Oui, 5 fonctionnaires supplémentaires qui arriveront pour la police nationale. 2 qui seront affectés à la partie judiciaire, au service de sûreté urbaine. Et les 3 autres qui seront affectés au service de voie publique. Donc ce sont les policiers que les Manosquins voient dans la rue qui fonctionnent le jour, la nuit, pour protéger leur sécurité.
L'État met les moyens.
L'État met les moyens. Il continue de mettre les moyens et surtout, quand il vient demander aux maires de mettre plus de moyens, il s'adapte aussi aux moyens mis en place par les maires. C'est ça la logique du contrat.
Après le contrat de sécurité intégrée qui court jusqu'en 2026, un autre contrat public a été reconduit, lui. Il concerne les quartiers prioritaires de la ville et établit des partenariats et financements entre l'État et Durance-Luberon-Verdon agglomération, représenté par sa vice-présidente et élue manosquine, Caroline Paolasso. Le contrat de ville traite de la cohésion sociale, du développement économique, emploi et formation, mais aussi de l'habitat et du cadre de vie. D'autres thématiques sont incluses, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, la promotion de la jeunesse et bien sûr la citoyenneté. Les 2 secteurs de la ville sont le centre-ville et quartier Saint-Lazare et bien sûr l'arc Serré-Plantier-Alizier où une grande rénovation est engagée et le contrat de ville lance la conservation de la mémoire des habitants avant ces grands changements. Ici, le partenariat est large, services de l'État et de DLV Agglo, les bailleurs sociaux, caisses d'allocations familiales, chambres consulaires et les habitants au travers des conseils citoyens. De nombreuses associations, CPIE, ADSEA, Ligue de l'enseignement, etc., proposent des actions que le contrat de ville subventionne. 234 700 euros en 2021 pour 30 actions. La sous-préfète de Fort-Calquier a signé le nouvel appel à projet du contrat de ville. Nathalie William, vous êtes sous-préfète de Fort-Calquier. Quel est le sens du contrat de ville ?
Le contrat de ville vise à rétablir l'égalité des chances. Le contrat de ville permet aux habitants de la commune de Manosque, de l'arc sud ou du centre-ville et du quartier Saint-Lazare, d'avoir accès, au même titre que tous les habitants de cette commune, à un emploi, à des activités culturelles, sportives et à un habitat dont la qualité doit être, quand c'est nécessaire, améliorée. Donc le contrat de ville vise vraiment à permettre à chacun de trouver toute sa place au sein de notre République et à rétablir cette égalité des chances.
On peut dire qu'il y a 2 commanditaires qui sont l'État d'un côté et puis l'intercommunalité, autrement dit la DLVA.
L'État et la DLVA sont effectivement partenaires pour mettre en œuvre le contrat de ville. Ce contrat, c'est véritablement une politique partenariale. L'État et l'agglomération de Manosque et DLVA mènent ensemble cette politique, animent ensemble les projets qui vont être développés par les porteurs de projets. Ils vont sélectionner les projets ensemble, les financer. Et c'est vraiment une politique qui est conçue comme étant partenariale et qui doit être menée main dans la main entre l'État et les collectivités. On est sur une politique qui touche les habitants dans leur cœur de façon immédiate. Et donc on ne peut évidemment pas être dans une logique ascendante où l'État viendrait finalement imposer ou calquer des modèles ou indiquer que ce sont tel ou tel type d'actions qui doivent être menées. On est vraiment dans une logique qui vient du terrain vers le haut et qui remonte. Et donc ce sont aux habitants, aux associations de présenter des projets, de porter des projets et l'État et l'agglomération viennent comme partenaires pour rendre possible ces projets. C'est tout le sens de la contractualisation qui aujourd'hui se développe de plus en plus en réalité entre l'État et les collectivités. L'État se positionne aujourd'hui évidemment sur des missions de sécurité, sur des missions régaliennes, dans une position où évidemment il est là pour faire respecter la loi et dans une position qui peut être vécue comme étant ascendante. Mais sur tous les autres champs de politique publique, en réalité aujourd'hui, la logique elle est souvent partenariale, mener des politiques publiques main dans la main avec les collectivités.
On peut dire que c'est une valorisation concrète des valeurs de la République ?
Tout à fait, c'est essentiel. Ces valeurs de la République, elles sont au cœur du contrat de ville. Les actions qui sont menées par des associations visent à essayer de diffuser, en tout cas elles doivent être conçues en intégrant les valeurs de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, tout simplement notre devise de liberté, d'égalité, de fraternité. Les actions portées par ces associations au titre du contrat de ville mettent en musique les valeurs de la République. Et d'ailleurs, les associations qui sont retenues au titre du contrat de ville et financées par l'État et par l'agglomération s'engagent sur ces valeurs de la République en signant une charte dans laquelle elles s'engagent à ce que les actions menées respectent tout simplement nos valeurs fondamentales. Et donc finalement, c'est la République à l'œuvre grâce à ce contrat de ville.
Entrer dans la magie de Noël.
Le marché de Noël de Sisteron ouvre ses portes ce vendredi 17 décembre avec cette année un programme riche en nouveautés. Jusqu'au 22 décembre, de nombreuses animations sont prévues avec parmi les nouveautés un spectacle chorégraphique aux effets visuels spectaculaires qui a fait le tour du monde de Lyon à Hong Kong. Les Anoukis sont deux personnages inspirés des contes et légendes inuits. Leur banquise a fondu. Il décide alors de parcourir le monde dans un univers de magie et de lumière. Nicolas Laugier, président de l'APAX, l'association des commerçants sisteronais, présente le programme des festivités sisteronaises au micro de Chris Alessandri.
Noël à Sisteron avec les commerçants sisteronais et bien entendu en partenariat avec la ville de Sisteron. Du 1er au 24 décembre, on retrouve notre classique jeu des 4 tampons où c'est qu'il y a 1000 euros à gagner. Donc ça c'est l'événement je dirais habituel de chaque Noël. Et bien entendu le marché de Noël du 17 au 22 décembre qu'on pourra retrouver donc sur la place de la mairie avec bien entendu toutes les conditions sanitaires qui sont mises en place pour bien accueillir notre public.
Ce marché de Noël il est toujours exceptionnel dans vraiment une atmosphère de Noël et ça vous y tenez. Pour décrire un tout petit peu ce rendez-vous.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un cadre exceptionnel. L'année dernière, faute de Covid, on avait essayé de faire un marché de Noël tant bien que mal. Cette année, en partenariat avec la ville, bien entendu, on a remis les bouchées doubles et il y aura un marché de Noël important devant la mairie du 17 au 22 avec un bon nombre d'animations. Bien entendu, le Père Noël sera présent. Des animations qui seront offertes avec des groupes de musique, des chorales, du maquillage, parade du Père Noël, balade à poney, un tas d'animations tous les jours du vendredi jusqu'au mercredi puisque le marché de Noël dure pendant 6 jours et une cinquantaine d'exposants seront là. On pourra retrouver plein d'idées cadeaux ou tout simplement des petites gourmandises pour les fêtes, pour se faire plaisir. Ce marché de Noël cette année sera marqué par une sphère, un mapping, un spectacle lumière, une société qui a été primée 3 fois aux fêtes des Lumières de Lyon. Son spectacle c'est promené dans le monde entier, à Dubaï, à Hong Kong, et bien il déboule à Sisteron avec ses Anoukis, deux personnages que je vous invite à venir retrouver, donc du 17 au 19 pendant 3 jours, de 17h à 20h non-stop, on pourra retrouver ce spectacle sur une sphère géante de 10 mètres de diamètre, qui représente un immeuble de 3 étages, donc ça passera pas inaperçu, donc voilà, c'est l'événement marquant de ces fêtes de fin d'année qu'on a voulu offrir aux Sisteronais, à nos clients et à nos visiteurs. Donc on essaye vraiment d'être très variés, il y a bien entendu le calendrier de l'Avent des commerçants sisteronais. C'est quelque chose qu'on avait commencé l'année dernière et qu'on a renouvelé cette année. Donc l'idée est tout simple, c'est où au niveau des croisements rue droite, place Paul-Arène, on passe devant le calendrier de l'Avent, la trappe du jour et on voit les commerçants qui font des remises uniquement sur cette journée-là. Donc j'invite tous les consommateurs qui veulent profiter de ce calendrier de l'Avent ou sur les réseaux sociaux aussi, on communique les commerçants qui font les remises uniquement sur une journée. Donc profitez à notre époque, une petite remise c'est toujours ça de gagner. Donc n'hésitez pas à profiter du calendrier de l'Avent des commerçants sisteronais. Jusqu'au 24 décembre, tous les jours, il y a des commerçants qui font des remises ou des cadeaux. Certains offrent carrément des cadeaux. C'est un petit peu l'événement et la nouveauté aussi de cette année, ce calendrier de l'Avent qu'on a relooké par rapport à l'année dernière et qu'on améliore d'année en année. Et j'espère que ça en deviendra un événement phare pour le commerce sisteronais.
Et toute une structure, parce que c'est vraiment un contexte spécifique avec des emplacements, avec une façon de déambuler sur le marché de Noël.
Oui, comme je le dis souvent, c'est le marché de Noël, c'est le village de Noël. Donc on essaye d'organiser ça au mieux pour qu'il y ait vraiment ce côté chaleureux qu'on peut retrouver pendant ces fêtes d'année. Donc on met tout en œuvre pour qu'il y ait ce côté sympathique qui ressort sur le marché de Noël de Sisteron.
Pour faire un petit bilan, aller sur les années précédentes, comment se porte le marché de Noël de Sisteron ?
Le marché de Noël de Sisteron, par rapport aux années précédentes, il a traversé, comme l'époque actuelle et comme on le vit tous, la crise Covid. L'année dernière, il a été amoindri du fait des problèmes d'organisation qu'on avait pu rencontrer pour la crise sanitaire. Et j'espère qu'il va retrouver toute l'ampleur qu'il a connue dans le passé. C'est un des rendez-vous importants pour nous, Sisteronais, pour nous, commerçants Sisteronais, mais pas que. On croise de nombreux visiteurs de notre territoire sur le marché de Noël à Sisteron. Au vu de cet événement événement important qu'on souhaite organiser avec tous ces rendez-vous qu'on offre aux enfants, des moments de magie, que ce soit la séance photo avec le Père Noël, le maquillage, il y aura un spectacle de marionnettes. Et bien sûr, à retrouver en plus du calendrier de l'Avent, qui est l'événement de cette année au niveau des croisements de l'avenue Paul-Arène et rue Droite-Haute, la boîte aux lettres du Père Noël. Le secrétariat du Père Noël a aussi une secrétaire assisteront. Et donc, n'hésitez pas à accompagner vos enfants pour déposer la lettre au Père Noël dans cette boîte aux lettres. Et une réponse est assurée à tous les courriers et toutes les demandes du Père Noël. Donc voilà, un moment aussi dédié aux enfants. Donc on est au rendez-vous pour répondre aux enfants. La boîte aux lettres du Père Noël de la Pax est ouverte jusqu'au 23 décembre. Bien entendu, on retrouvera les commerçants qui seront ouverts les dimanches 12 et 19 décembre pour vous accueillir et vous servir. C'est vraiment un moment, un rendez-vous pour les familles convivial, pour vraiment garder la magie de Noël, comme je le dis souvent. C'est le moment de l'année où c'est qu'on se fait rêver et la magie s'installe pendant quelques jours.
Vous êtes un peu le Père Noël, Nicolas ?
Non. Il faut demander à ma fille. Ma fille vous dira peut-être que je suis le Père Noël, mais aussi non. Tout simplement, on essaye de rendre dans cette période un peu compliquée beaucoup de magie à tout le monde. Et c'est important, je pense, dans ces moments-là.
En tant que président des commerçants cisteronais, vous avez des rapports avec les commerçants, les exposants. Qu'est-ce que vous pensez de l'esprit à l'heure actuelle des commerçants ici à Sisteron ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
L'esprit des commerçants cisteronais à l'heure actuelle est, j'irais, un esprit dynamique. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite et que j'essaye d'impulser le mieux possible et de transmettre à l'ensemble des commerçants. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur l'avenir. Chaque rendez-vous comme celui-ci, parce que c'est quand même une période commerciale importante aussi pour nos commerces. C'est un rendez-vous important. Donc, on a des craintes. On ne sait pas trop avec la conjoncture qu'on traverse si les chiffres seront au rendez-vous, si nos clients seront au rendez-vous. Et d'ores et déjà, je peux remercier nos fidèles clients qui font les efforts qu'ils doivent faire pour venir nous rendre visite. Donc, j'espère que, bien entendu, l'événement de Noël et la période commerciale qui est importante pour nous sera marquante cette année une fois de plus. Ça a été le cas en 2020, j'espère que ça sera encore le cas en 2021 et puis pour les nombreuses années qui suivent derrière. C'est pour ça qu'on fait, je dirais, un programme le plus large possible pour pouvoir convenir à tout le monde et à l'ensemble de nos clients. Par exemple, ce week-end, on pourra retrouver le Père Noël dans les rues de Sisteron en parade en deux chevaux. Une nouveauté sur Sisteron, il change un petit peu d'outil de mobilité, je dirais, pour se déplacer. Un clin d'œil sympa dans une deux chevaux, bien entendu, rouge, comme le va si bien à la tenue du Père Noël.
Sa ville distingue Roland Gomez, professionnel de manosque en or.
Semaine honneur pour le fondateur de l'entreprise Proman. Après avoir reçu une médaille des mains de la ministre du Travail Elisabeth Borne, c'est au tour de la ville de Manosque d'honorer le chef d'entreprise. Faut-il rappeler que Proman signifie « les professionnels de Manosque » et comme l'a signalé Roland Gomez, lorsqu'à l'étranger, dans l'un des 14 pays où est présente l'entreprise, il explique ce nom une heure après. Les moteurs de recherche crépitent et quelques semaines plus tard, des visiteurs se rendent dans la cité de Giono. De quoi satisfaire les élus locaux qui, par leur maire, Camille Galtier, lui ont attribué la médaille d'or de la ville. Instant de reconnaissance et de gratitude, une cérémonie conviviale, malgré masques et contraintes, s'est déroulée salle Osco-Manosco. Créé en 1990, juste avant la guerre du Golfe, Proman a bénéficié de l'écoute et du soutien du Crédit Agricole en la personne de Daniel Vasselin qui dirigeait la caisse locale et Roland Gomez ne l'a pas oublié dans ses remerciements. Aujourd'hui, le groupe familial est dirigé par son fils, Roland, qui pousse vers une progression spectaculaire, un objectif ambitieux fixé par son père, atteindre un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. La barre est haute et la cible est partagée par ses collaborateurs et sa famille qu'il a plusieurs fois remercié. Réussite économique donc pour Proman, mais aussi un engagement social via la Chambre de commerce que Roland Gomez a présidé au niveau départemental et régional, une fondation qui emmène des gamins au concert de soprano ou pour applaudir l'OM, des fonds pour le Rire Médecin ou encore des parrainages pour des jeunes. Roland Gomez n'oublie pas ses origines modestes et partage sa réussite avec bienveillance. Je vous propose d'écouter Roland Gomez à l'issue de la remise de la médaille de la ville par un maire qui n'était pas encore né quand l'aventure de Proman a commencé.
Roland Gomez, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Vous venez de recevoir la médaille d'or de la ville de Manosque. Ben, je suis dans un état d'esprit très satisfait, hein, puisque je viens de le dire à un ami, moi, peut-être à l'ancienne, moi j'apprécie les signes de reconnaissance et j'ai pas honte de dire que je suis fier de recevoir la médaille d'or aujourd'hui de la ville de Manosque. C'était jeudi la médaille du travail, grand or, puisque j'ai... Mais parce que aussi, elle ne flatte pas mon ego, elles me font... cette occasion de plus de partager des choses avec ma famille et mes collaborateurs.
C'est un jeune maire qui vous a remis cette médaille. Il est plus jeune que votre entreprise.
Et oui, et c'est vrai. Et puis, moi, aujourd'hui, j'étais un peu partisan pour que ça change à Manosque. Et depuis un an et demi, maintenant que le mandat a été pris, je n'ai pas de critique fondamentale à faire. Je trouve que ça va plutôt dans le bon sens sur Manosque.
Et vous participez à la vie de Manosque, évidemment avec vos salariés, mais aussi avec votre fondation, et notamment dans le domaine humanitaire et sportif.
Ah oui, alors ça, on le fait depuis toujours, dès qu'on a eu les moyens de pouvoir aider, parce qu'il y a eu, en gros, les 10 premières années de Promane qui ont été très difficiles, mais dès que ça a pu se faire, on a toujours répondu présent, y compris sur les actions sportives, le mécénat pour les sportifs, et puis tout ce qui est social et citoyen, je vais pas tout rappeler, mais c'est vrai que ça va du fait qu'on ait équipé les étudiants du collège ou de l'hôtellerie, je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus exactement de leurs équipements pour la rentrée, aussi bien que d'avoir amené 300 jeunes des quartiers de Manosque voir Soprano. Demain, avec l'école de la Deuxième Chance, on organise des vols en montgolfière pour les salariés de la Deuxième Chance, qui sont déjà en réadaptation au travail, etc. etc. L'école de golf ou le club de vélo, on est souvent présent.
On peut citer aussi les clowns à l'hôpital, la MJC de Manosque,
beaucoup
d'actions. Et vous avez accompagné aussi des jeunes pour voir et applaudir l'OM notamment à
exactement.
Au Vélodrome.
Ça fait beaucoup, donc je ne me rappelle pas toutes les actions. Mais c'est dans notre ADN, puis je l'ai déjà dit, alors ça peut être galvaudé, mais moi je le fais sincèrement. Je me rappelle d'où je viens et tout ce que je peux faire... Par rapport à notre humble réussite, je le fais très volontiers envers ceux qui sont plus défavorisés. Tu sais, je viens d'un milieu très défavorisé, hein. Je suis orphelin de père. Donc voilà, j'oublie jamais que quand on peut, et dès qu'on peut plutôt, ben, il faut penser à partager un peu sa réussite.
On le sent et on sent ces valeurs de Promane au sein de votre entreprise. Roland Gomez, vous avez rappelé vos débuts difficiles en 1990, c'est la guerre du Golfe. Difficile aussi de convaincre les banques, et heureusement il y avait Daniel Vasselin qui a pu vous aider.
Oui, alors moi je le dis, ça aussi des fois ça peut heurter des patrons parce que bon, les banques souvent, même du public en général, hein, elles sont taxées de tous les maux, mais comme je viens de le dire, que tu as rappelé, quand on vient d'où je viens, ben, sans les banques on peut rien. Et donc moi j'ai été content qu'une banque m'accompagne dès le début, et alors après j'ai eu ce cadeau d'être accompagné par le Crédit Agricole, mais surtout par un homme qui a pris d'énormes risques, qui a eu 100 fois l'occasion de me dire « Monsieur Gomez, je voudrais, mais je ne peux plus, parce que vos résultats au niveau des premières années, non, je ne peux plus vous suivre », et qu'il n'a pas fait. Je pense qu'il avait noté, malgré tout, hein, ça j'en suis sûr, qu'on méritait d'être aidé parce qu'on était honnête et travailleurs. Après, c'est la difficulté des impayés, mais ce n'était pas le manque de travail ou le gaspillage de l'argent que l'on pouvait percevoir à l'époque. Donc, je remercie encore ce monsieur de nous avoir aidés, parce que si on n'avait pas passé ce cap, je serais retourné sur les chantiers, puis voilà, je n'aurais pas créé Promane. Enfin, je n'aurais pas continué Promane.
Alors aujourd'hui, c'est votre fils qui tient les manettes de Promane, et demain, vous lui avez fixé un objectif extrêmement difficile, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est faisable ?
Ben, c'est faisable. Alors aujourd'hui, les conjonctures, mais c'était un peu une galéjade aussi, hein, parce que on dit milliards, parce que voilà, on dit on passe de 3 à 6, ben, on double. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs tous les 4 ans, on a doublé notre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, avec un peu de malice, et puis en espérant surtout qu'on soit tranquille au niveau sanitaire et que ces Covid divers et variés qui nous arrivent, ça s'arrête un peu. Je le souhaite vraiment pour Promane et pour tous les Français, pour tous les habitants du monde, parce que au-delà de l'économie qui nous fait défaut, quand c'est le cas, hein, aujourd'hui c'est pas le cas en français, l'économie se porte plutôt bien, mais si à nouveau du Covid, on pourra pas peut-être maintenir tout ça, mais c'est surtout que je constate de plus en plus que ça joue sur le moral, sur l'envie d'entreprendre des gens, sur la peur du lendemain, et grosso modo presque l'envie de se replier en disant, mais il n'y a plus de valeurs qui tiennent, y compris celle de travailler, pourquoi, demain on va tous mourir, et tout ça c'est pas bon, quand une société se met en gros à être négative à 100% quoi, bientôt, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avancer le public, là ça va être compliqué.
Et mort de Camille Claudel, un roman de Marie-Noëlle Pascal.
Correspondante de presse à Gréoux-les-Bains et passionnée d'écriture, Marie-Noëlle Pascal publie « Le secret de Camille C. » aux éditions Vérone. Auteure de 2 livres sur les faits divers et les affaires criminelles, elle a également publié 5 romans noirs où son goût pour l'art s'immisce dans les intrigues. Et c'est le cas de son dernier ouvrage. Elle nous entraîne à la poursuite de Camille Claudel, génie de la sculpture, contrarié par son amant et maître, un certain Auguste Rodin, mais qui finira enfermé pendant 30 années et considéré comme folle à l'asile de Montfavet dans le Vaucluse. Durant son internement, la sculptrice n'a pas produit d'œuvre et fut enterrée dans la fosse commune. Du moins, c'est ce que pensent ses biographes. L'esprit de Marie-Noëlle lui invente tout autre chose à découvrir dans son roman. On y suit Rennes, dont la fille unique Chloé a disparu et qui est persuadée qu'elle n'est pas morte. Sa quête et son enquête vont croiser Camille Claudel, à qui elle voue une admiration sans borne. Des personnages sombres, attachants ou ambivalents évoluent dans une Provence aux nombreux mystères. En attendant des signatures dédicaces de l'auteur, écoutons Marie-Noëlle Pascal parler de son roman et de ses recherches sur la sculptrice géniale et recluse. Marie-Noëlle Pascal, on connaît votre appétence pour les arts, l'art plastique, l'art pictural. Il y a eu Marcel Duchamp, il y a eu Léonore Fini, il y a eu également Nicolas de Staël. Mais cette fois-ci, c'est sur Camille Claudel que vous avez flashé.
J'ai une admiration énorme pour Camille Claudel. Vous voulez savoir pourquoi je l'ai choisie, elle ? Alors, pour différentes raisons. D'abord parce que j'admire son œuvre énormément, deuxièmement parce que c'est une femme, c'est vrai, et aussi parce qu'elle a un destin qui est extrêmement douloureux et qui me révolte de temps en temps en me disant qu'elle a complètement cessé de sculpter à partir du moment où elle a été internée. L'autre raison aussi, la quatrième, c'est que ça se passe en Provence et donc dans le pays que j'aime.
On va revenir à cet aspect justement. Vous avez fait des recherches sur Camille Claudel et dans votre livre, Le secret de Camille C., vous citez beaucoup de ces courriers entre la mère, la fille, et puis évidemment le frère, Paul Claudel, et puis bien sûr les médecins qui l'ont soigné, entre guillemets.
3 ans de recherche à peu près. 3 ans de travail. Je mets 3 ans pour écrire un livre environ. J'ai travaillé bien sûr avec le catalogue raisonné de Camille Claudel, qui a été réalisé par sa petite nièce ou arrière-petite nièce, Reine. Donc je me suis beaucoup inspirée bien sûr de la correspondance de Camille et des lieux dans lesquels elle avait vécu, que j'ai visité et que j'ai décrit un petit peu aussi.
Alors évidemment, il y a la vie de Camille Claudel, l'œuvre de Camille Claudel, et puis il y a l'intrigue. Et là, c'est le polar, c'est l'autre facette de Marie-Noëlle Pascal.
Oui, alors pourquoi est-ce que je mêle toujours une intrigue criminelle, un polar, entre guillemets, ou comme dit joliment un de mes amis journalistes, un Paul, P-O-L, apostrophe A-R-T, un Paul art, ben, pour retenir l'attention du lecteur, pour qu'il soit un petit peu en suspens, qu'il ait envie de connaître la suite. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je mêle l'intrigue criminelle et la présentation, le fait de faire vivre un artiste.
Avec ce mouvement très particulier, pendulaire, où on passe du 19e, fin 19e ou début du 20e, et puis l'heure actuelle avec vos personnages qui s'agitent autour de Camille Claudel.
Oui, J'espère que ça ne désoriente pas trop le lecteur. Plus au coup, on dit qu'ils aimaient bien. Effectivement, on passe de l'un à l'autre pour montrer qu'il y a une correspondance très très forte entre les deux.
Il y a également des personnages très attachants. Alors évidemment, des personnages qui sont troubles et troublants même. Et puis il y a, par exemple, et c'est un petit peu un personnage qu'on retrouve dans vos livres, un vieux, entre guillemets, commissaire qui vient apporter de ses lumières, comme dans d'autres livres, c'était un vieux journaliste, par exemple, toujours avec des guillemets. Ça, c'est quoi? C'est la sagesse qui vient faire une irruption dans votre livre?
Oui, mais il y a un journaliste aussi qui intervient et qui a un rôle important. Il y a toujours un journaliste dans les livres que j'écris. Et le commissaire, oui, c'est quelqu'un qui a le temps, c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a pris à cœur l'enquête. Et comme plusieurs commissaires le font, effectivement, prennent à cœur une enquête qui peut durer des années, qu'ils suivent et qui, heureusement, arrivent à dénouer. Parce que sans eux, l'enquête n'aboutirait pas.
Et puis évidemment, il y a des femmes dans votre livre, et des femmes qui ont un rôle puissant, et puis des fois aussi un rôle tragique, dramatique.
Oui, vous connaissez l'histoire de Camille Claudel. Vous savez que pendant 30 ans, de 1913 à 1943, elle a été internée, probablement au départ à raison et ensuite à tort. Donc moi, ça m'a complètement bouleversée. Quand je pense à elle et j'ai vu dans quel endroit elle vivait, je trouve ça horrible d'une part. J'ai essayé de lui inventer une petite vie supplémentaire inconnue.
On n'en dira pas plus. On va garder le mystère avec le secret de Camille Claudel. Marie-Noëlle Pascal, vous écrivez souvent avec la facilité d'imaginer des choses. Et c'est le cas dans Le secret de Camille C.
J'espère, oui. J'espère qu'il y a des rebondissements, qu'à la fin de chaque chapitre, on se demande un petit peu ce qui va venir après. C'est le bon vieux truc, se demander effectivement où nous allons. Mais quand je démarre, je sais où je vais. Mais j'essaye de mener le lecteur petit à petit vers l'illumination, voilà.
Alors, votre livre est publié par Véronne Édition. Où est-ce qu'on le trouve, Marie-Noëlle? Et est-ce que vous allez avoir bientôt une signature dans les environs de Manosque?
Je vais en avoir une bientôt. On trouve mon livre au Bleuet, bien entendu, dans les librairies de Manosque, de Gréoux, d'Aix-en-Provence, de Marseille, certaines. Et puis, on peut le commander partout. Alors, on le trouve également sur Amazon, la Fnac, etc.
Et votre signature?
Alors, la signature, ce serait probablement dans une grande surface dans 15 jours.
On annoncera ça sur notre antenne. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. D'autres projets avec l'écriture, toujours, et puis le pôle art?
Le futur est déjà en route, bien sûr.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Bien sûr que non, Olivier. Ce sont les fêtes de fin d'année. Donc, nous nous retrouverons début janvier. On va faire une petite interruption de notre magazine. Et puis, on vous conseille évidemment de passer de belles fêtes de Noël. On vous le souhaite. Évidemment, en respectant aussi les gestes barrières et les jauges en ce qui concerne les amis qu'on doit voir. Restez prudents, évidemment, en cette période. Et puis, on va se quitter en musique. Alors, on va éviter Petit Papa Noël et Douce Nuit. On vous propose un certain Sting qui va nous emmener pour un Noël à la mer. Ça s'appelle Christmas at Sea. Merci, Olivier. Passez de bonnes fêtes et puis à bientôt.
All day we fought the tides between the north head and the south. All day we hauled the frozen sheets to escape the storm's wet mouth. All day as cold as charity in bitter pain and dread. For very life and nature we tacked from head to head. Hearing you, oh, hear you, oh, great Father.
with a wider berth, for there the tide race roared. But every tack we made, we brought the North Head close aboard. We saw the cliffs and houses then, the breakers running high, and the coast guard in his garden, his glass against his eye. The frost was on the village roofs, as white as ocean foam. The good red fires were burning bright in every longshore home. The windows sparkled clear, and the chimneys volleyed out. And a vow we sniffed the victuals as the vessel went about. The bells upon the church were rung with a mighty jovial cheer. For it's just that I should tell you how, of all days in the year, this day of our adversity was blessed Christmas morn. And the house above the coast guards was the house where I was born. And well I knew the talk they had, the talk that was of me, of the shadow on the household and the sun that went to sea. And all the wicked fool I seemed in every kind of way, to be here and hauling frozen ropes on blessed Christmas Day. The